Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici R. Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc-en-Diois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous recevons Mélusine.
Bonjour.
Bonjour, Mélusine. Tu es danseuse, on peut dire ?
On peut dire que je suis danseuse chorégraphe et j'ai une compagnie, la compagnie In Out Situ. On est domicilié à Die. Donc je fais beaucoup de travail de création et je danse beaucoup dans mes créations aussi.
Et tu es ici aussi pour nous annoncer ton rendez-vous qui est donné donc le 23 janvier dans le cadre de l'écologie au quotidien avec les rencontres de Die. Et ça sera le 23 janvier, donc je disais à 9h à l'ESCDT, où il y aura une représentation, une séance de danse immortelle.
Oui, alors les danses immortelles, c'est une... En fait, c'est une série d'ateliers que je propose notamment aux rencontres. Donc là, c'est un atelier, un laboratoire ouvert à ceux qui veulent s'inscrire pour vivre un moment, un atelier. Mais c'est aussi le début d'un cycle avec le théâtre de Die, le théâtre des airs, sur 5 ateliers. Donc 3 rencontres les jeudis soirs. Et une rencontre toute une journée, un dimanche. Donc les jeudis 9 et 23 février, 16 mars. Et ensuite le dimanche 26 mars. Donc avec la possibilité de s'inscrire, je vous conseille de vous inscrire auprès de Marion en médiation au théâtre.
Alors les danses immortelles, comment peut-on définir cette notion ? C'est ancestral, c'est quoi ?
Alors c'était un peu en réponse aussi avec les cafés mortels d'écologie au quotidien. Et ça parle de ce cycle de la mort et de la vie. Et c'est en réponse un peu aussi à mon spectacle que je vais présenter au théâtre en avril lors du festival Friction du Réel, où moi j'aborde la question de la mort et du deuil dans ce spectacle. Et j'avais envie, ce spectacle a pas mal évolué dans les dernières années, il a rencontré différents publics, notamment il est encore en processus de création. Mais j'avais envie pour cette fois-ci qu'il y ait un espace vraiment de plongée autour de cette thématique avec un groupe ensuite qui est fermé avec le théâtre. Donc les 5 séances, on s'inscrit, on part ensemble en voyage. Et autour de cette question de la mort, du deuil, de la perte, de cette question de comment on assure une continuité du monde du mort dans le monde des vivants. Et comment on dialogue avec cet espace-là, aussi intérieur au niveau des émotions. Et comment on habite le souvenir, et comment ce souvenir est présent dans les corps. Donc, moi, je pars d'une expérience très personnelle de deuil, de rencontre avec la mort. Et voilà, de partager cette thématique, rencontrer ces multiples voix et expériences autour de la question de la rencontre avec la mort. Ce matin, là, j'étais dans un atelier où j'ai rencontré des collégiens, CM2, fin primaire. Et voilà, je les ai questionnés directement sur leur expérience de la mort. Et c'est un sujet qui les a interpellés et dans lequel ils ont pu... en tout cas, l'énergie a changé, est devenue plus dense. Et d'un coup, on s'est mis à parler de choses sérieuses et de choses qui touchent. Et, Et il y a beaucoup de matière à aller échanger, faire évoluer ensemble. Et notamment aussi, il y avait des émotions qui commençaient à émerger. Et ce droit de parler de la mort, ce droit de parler de la tristesse, de la colère, de l'injustice, du sentiment d'injustice qu'on peut vivre. Et pour moi, cette parole et cette expression, qu'elle soit en mots ou en corps, je pense qu'elle est fondamentale. Et donc, créer ces espaces, ces petits moments d'ouverture, comme ce matin où c'était très court, eh ben, d'un coup, on a pu être dans une rencontre qui était dans les essentiels.
Comment s'est opéré, tu parlais de ton expérience personnelle, pour t'atteler à cette notion de la mort et dont tirer aussi une création, en quelque sorte. Oui. Comment est venue cette idée? Est-ce que tu as eu connaissance de pratiques qui existaient déjà ou alors est-ce que tu as amené, un travail de réflexion et peut-être de création, tout simplement?
C'est dans le travail de recherche que j'ai fait. Je m'intéressais à la mémoire du corps. Et à force de chercher, je suis tombée sur ma propre mémoire. et cette vibration-là est devenue un espace de nécessité. Et j'ai pu toucher aussi à l'espace de silence et de tabou qu'il y avait à l'intérieur de moi autour de ça, qu'il y a encore, et dans lequel que je côtoie avec cette thématique. Et vraiment cette mise en lumière de ce qu'il y a dans l'ombre. Moi, enfant, j'ai souffert de l'espace tabou et silence, et comment redonner un espace de partage autour de cette thématique. Ça a touché vraiment ma nécessité personnelle. Et donc, après, tout le défi, c'est un défi assez majeur. Prendre une expérience personnelle pour l'amener sur le plateau et dans l'espace public, parce que je commence dehors. Enfin, la version là que je travaille, c'est je commence dehors et je vais ensuite dans le théâtre. Cette idée-là d'amener l'espace privé dans l'espace public. Et en fait, je rencontre toute cette construction sociale qu'il y a autour de la parole privée aussi, comment elle a sa place, pas sa place, la parole sociale, la parole d'organisation, même politique au niveau de travail dans l'espace public. Et donc en fait, en tirant le fil à l'intérieur de moi, j'ai pu rencontrer tout ça et cette nécessité de partage et de rituel collectif que peut permettre le spectacle aussi.
Oui, donc en partant d'émotions et de vibrations, le corps traduit par des mouvements, et donc il s'agit peut-être pour toi de les inventorier et puis aussi de pouvoir en jouer.
Ouais, moi j'ai axé mon travail vers quelque chose d'assez symbolique. Notamment avec cette image, j'ai dû utiliser aussi un personnage qui est le personnage de l'araignée, du fil aussi, tisser, aller extirper les choses à l'intérieur de soi en tirant sur le fil de la vie, ce fil entre la vie et la mort. Et donc, je replonge dans le souvenir. Donc, je remets en mouvement ce souvenir. Et je matérialise des choses qui ont... En tout cas, il y a une pensée, Madame Després, elle parle d'effilochement des mondes, quand une espèce disparaît, un monde qui disparaît. Mais il y a aussi un monde qui se construit. Et donc, un monde, pour moi, c'est un monde qui vient de l'enfance. Et donc, comment je le réinvoque sur scène. Voilà. Donc il y a ce travail-là.
ce travail, est-ce que tu l'abordes pour d'autres sujets que la mort ?
Au niveau symbolique ?
Symbolique, mais même dans l'aspect d'élaboration, de construction, d'une danse.
Par ailleurs, En fait, pour moi, cette création, c'est une création fondatrice de ma démarche. Et de là, je vais dans différents espaces qui ont des fois rien à voir. Et j'essaye de créer un ascenseur vers cet espace de crudité, j'ai envie de dire, de cruauté, de quelque chose qui va vers les tréfonds, mais avec des espaces de travail qui peuvent être très loin de ça. Et donc, j'essaye de construire des outils chorégraphiques, des outils de relation avec les gens qui sont aussi adaptés à l'endroit où, enfin, de l'endroit où je travaille. Parce que bon, là, les trois dernières années, par exemple, j'ai travaillé dans le quartier Fombarlette avec un projet de résidence pendant 3 ans sur, qui s'appelait Polygraphie de quartier. Intime cité, donc il y avait toujours cette volonté d'aller chercher la parole intime et de l'amener dans l'espace public. Mais voilà, avec des choses qui pouvaient être très vibrantes, mais c'est pas exactement le même travail. Donc comment amener les gens à se mettre en mouvement autour de thématiques qui leur est chères et dans lesquelles ils sont intimement liés? Eh ben, c'est tout un, comment dire, un art, ou en tout cas, faut développer toutes sortes de stratégies pour aller chercher cette parole et la mettre en mouvement avec les gens. Et pour ça, bah, j'ai utilisé plusieurs stratégies, notamment un jeu de cartes, le jeu à danser, des interviews. J'aime beaucoup travailler à partir d'interviews qui sont où on mélange parole et mouvement. Et des ateliers également, évidemment. Et donc, ça, c'est comme si ce projet de création, Philomèle, elle est dans l'espace du terreau. Et de là, je peux extirper des choses qui ont toujours cette volonté, en tout cas ce désir d'aller puiser à cet endroit-là, mais dans des contextes qui amènent une autre réponse.
Par rapport à cette représentation que tu peux faire de la mort dans cette accaparation du sentiment, de la fibre, du tissu même, comment se traduit-elle, sachant que a priori la mort c'est en quelque sorte le néant,
L'espace du vide.
Comment de ce vide faire ressortir une nouvelle nature, en quelque sorte?
Ça, j'y pense beaucoup en ce moment dans la préparation des ateliers Les Danses Immortelles. Et moi, je sais qu'il y a une pratique que j'aime beaucoup qui va vraiment aller toucher cette notion du vide dans lequel peut surgir quelque chose, c'est le mouvement authentique. Et il y aura de cet aspect-là dans les ateliers où on est dans l'espace du silence, le corps, mais ce qui fait contenu, parce que des fois, dans la mort, le trauma aussi, la rupture, ça peut créer aussi une absence de contenu, où tout explose, en fait. Et donc, quand même, en mouvement authentique, par exemple, il y a cette idée de contenir l'expérience, même si au centre, il y a le vide. Il y a quand même le témoin qui est là et qui crée une membrane autour qui permet un espace de sécurité. Donc, ce n'est pas exactement le même espace du vide. Mais quand même, c'est une expérience où on est les yeux fermés, donc dans le noir. Voilà, un noir qui peut se modifier mais avec la lumière extérieure. Mais quand même, le noir et la rencontre avec soi, sans autre stimuli que son propre vécu du corps. Et pour moi, cet espace du vide... de l'ennui, de fondre quoi dans les éléments, c'est un espace créatif qui est très précieux quoi.
Vous parliez tout à l'heure de Café Mortel.
Oui.
C'est selon vous aussi un des moments d'inspiration ou d'échange?
Ben moi, j'ai été très impressionnée et touchée par ces espaces de partage. Je crois beaucoup à cette notion du cercle comme un contenant aussi dans lequel la parole ou le corps peut s'inventer, se réinventer et être entendu ou vu. Et pour moi, ça crée un bol, une espèce de vibration, de bol vibratoire. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est comment... Déjà, c'est un sujet très, très riche et que ces multiples paroles, elles peuvent invoquer à la fois la solitude, la tristesse, la colère, l'injustice, mais aussi l'union, le partage. Et ça, j'ai trouvé vraiment magnifique de voir comment toutes ces paroles pouvaient se côtoyer sans se contredire, parce qu'on veut dire « Ah ben non, ben moi j'ai pas vécu ça, mais toi t'as vécu ça, là, là, sans dire qu'il y a une vérité autour de ça », mais plutôt de donner cet espace, enfin toute cette palette de couleurs autour de ce thème. Et c'est aussi ce que j'ai envie de faire vivre dans cet espace d'atelier, les danses immortelles, parce que j'ai pas dit « la danse immortelle », et pour moi le pluriel... dans cet atelier, il est vraiment important. Et aussi en réponse avec mon spectacle qui est une expérience. Moi, je fais une proposition à partir vraiment de quelque chose d'intime. Et comment, dans cet atelier, je vais plutôt toucher aux multiples et aux expériences de chacun, chacune.
Ces danses immortelles, donc ce sont 5 ateliers qui seront proposés en globalité. Combien de personnes pourront assister ?
Je dis 10-12, et s'il y a plus de personnes, il faudra en discuter, mais c'est possible aussi.
Et vous parliez de cette obscurité aussi. Est-ce que vous opérez un peu dans une certaine obscurité, justement, pour mieux se situer dans cet univers ?
J'ai beaucoup parlé de cette chose-là avec quelqu'un dans un café une fois par hasard. Et elle était vraiment choquée que je puisse utiliser une figure notamment de l'araignée, quelque chose qui est en lien avec l'obscurité, justement, au niveau symbolique. Et elle me parlait des anges et des choses plus qui sont en lien avec la lumière. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Comme discussion, parce que je disais oui, la lumière, d'accord, oui. C'est super, évidemment. Mais aussi l'obscurité et l'ombre, ça crée un volume. En fait, s'il y a pas d'ombre, il n'y a pas de volume. Et ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant de pouvoir constater ça, questionner cette notion de lumière et d'obscurité qui est un peu binaire, mais à l'intérieur de cette rencontre entre les deux, il y a un volume, il y a quelque chose qui est vivant à l'intérieur de ça et qui prend de l'épaisseur grâce à tous ces jeux d'ombre, de niveau d'ombre et de niveau de lumière.
Ces ateliers s'adressent à quel public ?
Moi, je préfère que les gens ils aient quand même une petite expérience au niveau, que ça soit physique, artistique. Donc c'est quelque chose qui est ouvert à tous, mais quand même avec cette envie, cette exigence de me dire que les gens puissent arriver aussi un peu outillés personnellement dans cet atelier.
Les danses immortelles, donc au pluriel, signifie donc une chorégraphie pour chaque stagiaire ou personne qui viendrait. Ou alors, est-ce que toi, en tant que chorégraphe, tu articulerais ou conjuguerais toutes ces capacités de manière à créer une sorte de communion ?
Pour moi, il n'y a pas l'idée d'être vu déjà par l'extérieur. Pour ne pas avoir cette exigence-là en aussi peu de temps. Mais ensuite, à l'intérieur des ateliers, c'est à la fois de pouvoir créer ces paroles individuelles, que ce soit en mouvement, mais aussi collectivement avec cette idée d'union. Je voulais aussi ajouter que ce travail, je ne le fais pas seul, il y aura aussi également Lynn Pook, qui est plasticienne, donc qui va pouvoir apporter aussi des choses, des éléments à manipuler ou à faire vivre à travers le travail plastique. Et il y a également Élie Carton de Gramont qui va travailler par de la récolte, avec de la récolte sonore. Et les personnes qui sont invitées à participer aux Danses Immortelles, elles seront invitées aussi à participer au spectacle, mais en présence plutôt, juste en présence déjà, et ensuite en présence sonore, soit par les enregistrements du spectacle, soit à la fin, par exemple, il y a une chanson à être là dans la chaise de chanson. Et ensuite, ça on verra, mais en tout cas, j'aspire à ce que les personnes puissent aussi graviter dans le public après le spectacle et faire un retour ou une récolte avec le public, une récolte sensible. Donc ça, c'est encore à voir, mais en tout cas, c'est un peu l'idée que, de complices à l'intérieur aussi du spectacle.
Tu parlais tout à l'heure de paroles et aussi d'interviews. C'est pour toi une base de réflexion. Quelle est la place de la parole justement dans tes propositions des Danses Immortelles en tant que spectacle même quelles sont ces paroles? Sont-elles de toi ou est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont marqué aussi?
Par rapport au voyage du spectacle, son grand processus de création par rapport au spectacle Philomèle, j'ai récolté des paroles d'enfants, j'ai récolté des paroles aussi d'adultes. J'ai fait une création de Philomèle en impliquant aussi des amateurs dans la création. Et c'est, moi, je me base vraiment principalement sur des paroles intimes. Ouais, intimes qui viennent des personnes, de leur vécu. Après, je lis des choses, mais je récupère pas les textes des autres personnes. Je m'en inspire, j'essaye de comprendre certains mots, d'essayer de les relier à mon travail, mais je récupère pas les textes écrits.
Après 2 années de pandémie, pour le moment, et un constat aussi d'un malaise plutôt généralisé de la population, de ce qu'elle a subi. Et puis, c'est en plus, on peut de ce fait dire aussi cette création du comité local de santé mentale. Est-ce que toutes ces prises en considération, ton travail rentre-t-il dans ce domaine également de pouvoir établir un diagnostic aussi et de manière à peut-être articuler avec d'autres structures ou d'autres préparatifs à venir?
Oui, la santé mentale, je me suis rapprochée un peu de cette thématique. Je ne l'avais pas rapprochée là avec la mort jusque-là, même si je pense qu'il y a une vraie nécessité sociale et de santé. Mais je l'avais rapprochée d'un autre projet à la fin de Polygraphie de quartier. J'ai fait un travail, mais encore sur cette notion-là de laisser la place à l'expérience intime avec l'autre, mais là c'était en lien entre le parent et l'enfant. Et donc j'ai créé une espèce d'entresort entre dedans et dehors, enfin dehors et dedans. Et donc là j'ai essayé de me rapprocher aussi de ce type d'organisme, mais c'est pas encore tissé, enfin voilà, il n'y a pas encore de lien réel, enfin réel, je sais pas comment dire, structurel. Et donc, je l'avais vraiment vu, ce projet, dans cet espace-là de santé mentale, santé de la famille, santé de pouvoir créer un espace hors du quotidien où il se passe des choses qui sont de l'ordre du sensible, de l'ordre de l'émotion, de l'ordre de la création aussi. Et dans cet entresort-là qui s'appelle Bulle de savon, c'est vraiment un espace pour moi qui relie tous ces aspects-là avec un peu une dimension de conte, de spectacle, et ensuite une dimension de rencontre, de témoignage, de partage, et une dimension de création. Les personnes, elles vivent tout ce processus-là dans ce travail-là. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à ce travail de la mort comme un espace de... Enfin, qui va répondre aux besoins de la santé mentale, parce que c'est vrai que l'angoisse et le stress est très fort en ce moment, c'est sûr.
Justement, on est passé de la société de spectacle, du divertissement, avant la pandémie, et il y a eu une prise de conscience, en fait, de ce qu'est l'humanité, c'est-à-dire sa fragilité face à la nature. Donc, peut-être un repositionnement aussi. Est-ce que, à tes yeux, cela semble difficile à se réapproprier, justement, de ce qu'est l'humain dans une société, sur la planète même, tout simplement?
Moi, j'ai jamais été dans une relation... Enfin, mon travail de création a été peu en lien avec le... Enfin, en fait, moi, je me positionne pas forcément en tant qu'artiste du spectacle, mais en tant qu'artiste de création.
Je parle de fait, nous sommes dans une société médiatisée, avec énormément de spectacles, de divertissements, et puis une espèce de... Ah. Je ne dirais pas de surhumanité, mais quelque part, qu'on soit maître du monde. Voilà, on était maître du monde et en fait, cette pandémie nous a rappelé à l'ordre.
Ouais. Eh bien, je trouve ça pas évident. Pour être honnête, franchement, je me sens personnellement dépassée par tout ça. Et par rapport à la place de l'art ou de la culture et de la rencontre, humaine. Je trouve qu'il y a un réel fossé qui peut se créer entre les gens et dans l'espace sensible. Je suis, franchement, en travaillant à Fombarlette et en travaillant aussi autour des confinements, de voir à quel point, en rencontrant les gens, ils sont isolés et collés à leur écran. Et je trouvais ça, c'était violent de pouvoir constater ça et de constater comme, en fait, la peur s'empare des corps, la peur d'aller vers l'extérieur, d'aller vers la rencontre, d'être en contact avec son propre corps et le corps de l'autre, et des possibles postillons de l'autre. En tout cas, ça c'est en plus, mais ça crée un espace... de crispation, et en même temps, quand après, dernièrement, last automne, j'ai travaillé avec des petits jeunes de CM et tout, et aussi constater comme il y a une vitalité qui est quand même là. Donc d'être en contact avec cette vitalité, ça donne espoir. Mais la balance pèse lourd, quoi, du côté de cet écran. Cet écran face au monde où on ne peut plus, enfin, où cet écran, pour moi, il est symbole aussi de distanciation face au monde aussi. Enfin, à la fois, ça a révélé notre fragilité, mais ça a aussi créé un espace de figé. Il y a quelque chose aussi dans les corps aussi où on a mis des masques à des gens qui travaillaient avec des bébés, des assistantes maternelles, alors qu'ils sont en pleine construction de leur capacité de langage et de rencontre émotionnelle avec l'autre. Et donc là, ça me terrifie, en tout cas personnellement.
On peut parler de Philomèle un peu plus aussi, ouais. Qui sera présenté donc en avril, hein, oui. Au Théâtre Les Airs. Philomèle, pourquoi ce titre déjà? Tu parlais de cette araignée qui constitue sa toile avec son fil. Est-ce que ce fil de Philomèle est en lien?
Oui. Donc la présentation, ça sera le 5 avril au Théâtre Des Airs lors du festival Friction du Réel. Et en fait, Philomèle, ça venait du fil qui se mêle et qui se démêle. Et finalement, je l'ai contracté et j'en ai fait un prénom qui existe et qui, c'est pas Philomène, c'est vraiment Philomèle, qui parle, c'est une histoire en fait, qui parle d'une femme qui chantait, et qui était très proche de sa sœur. Et à un moment donné, sa sœur se marie et elle part avec son mari ailleurs. Et sa sœur veut, enfin, elles veulent se voir. Et donc le mari va chercher Philomèle pour l'amener voir sa sœur. Et sur le chemin, elle chante tellement bien, tout ça, il la viole. Et elle ne peut pas ramener quand même sa sœur voir l'autre sœur, parce qu'il a... Voilà. Et donc, il lui coupe la langue et il l'enferme dans une cabane. Et à un moment donné... alors, je ne sais plus comment ça se passe, mais en tout cas, elle réussit à tirer le fil de sa robe ou quelque chose comme ça et à tisser avec sa bouche son histoire. Et là, il y a un petit oiseau qui arrive et qui récupère son ouvrage et qui le ramène à sa sœur. Et sa sœur lit ce qui s'est passé et va retrouver sa sœur enfermée. Et donc, vraiment, pour moi, c'est cette chose-là de... Enfin, encore une fois, de libérer la parole, de donner voix à des choses qui sont cachées.
Cette histoire, elle est de quelle origine ? C'est de la mythologie ?
Oui, c'est de la mythologie, mais c'est vrai que je n'ai pas gardé les références. Mais en tout cas, ça a fait partie de cette chose-là autour de ma recherche du fil avec Arachné, avec le Minotaure, avec cette loge de suivre le fil pour aller extirper quelque chose. Donc, c'est Nadège Prunière qui m'avait ramené ce texte. Mais je ne sais pas de où exactement, mais elle m'avait ramené ce texte et ça avait fait « Waouh ! Ah oui, je suis sur quelque chose de puissant et de qui est relié à une certaine violence aussi, mais qui va chercher des choses.
Tu sembles dire avec un texte ancien de découvrir quelque chose de neuf pour toi. Est-ce que jusqu'à présent, dans notre époque contemporaine, tu n'avais pas eu cet intérêt pour un texte ou une œuvre?
Si je comprends bien la question.
Est-ce que pour toi, est-ce qu'il a fallu trouver un texte ancien pour pouvoir t'inspirer alors que tu es dans une époque à qui effectivement la mort a peu de place hein, dans notre culture, contrairement à celle du Mexique où la mort est fêtée. D'ailleurs, tu t'es intéressé à ce phénomène aussi qui existe au Mexique?
Oui, un petit peu comme ça, mais vraiment, je trouve ça vraiment intéressant de, moi, me faire vivre cette chose-là dans notre espace, nous, culturel. Et après, par rapport au lien avec les mythologies, moi, mon prénom, par exemple, c'est un mythe aussi, Mélusine, la femme serpent. Et je sais que je trouve ça intéressant de relier l'expérience individuelle à des expériences symboliques. Enfin, pour moi, les mythes, c'est vraiment... cette chose symbolique qui va connecter les imaginaires d'une civilisation. Et donc, ça me sortait de mon espace individuel pour me relier à cet espace culturel qui me semble aussi un endroit de rencontre avec l'autre.
Je reviens un peu sur ce qui est proposé, les dents immortelles, avec une métaphore sur le jour et la nuit, donc un éternel recommencement en quelque sorte. Pour toi, c'est ça un peu, la mort, c'est aussi un éternel recommencement?
Et ben pour moi, il y a deux données là-dedans. C'est à la fois le lien avec la temporalité et le cycle. Ce matin, avec les jeunes, je parlais parce qu'on parlait du deuil, de la notion du deuil. Et dit, ben, est-ce que ça se guérit le deuil, la peine, quoi. Et il y en a qui disaient non, il y en a qui disaient oui. Je dis, ben, en fait, peut-être qu'il y en a, et ça se guérit, enfin, ça se guérit, ça s'atténue, ça s'augmente. Et c'est un cycle. Moi, j'ai l'impression dans ma vie de retraverser constamment cet espace où je re-rencontre ce souvenir et je le remétabolise à chaque fois. Donc, cette notion de cycle. Et pour moi, quand je suis en contact personnellement avec. Cette fin et ce début qui se renouvellent, ça me met dans un espace aussi de confiance, parce que ça peut être un peu angoissant, mais de savoir que je suis moi-même dans ce cycle de petites choses ou des grandes choses de ma vie, mais faire confiance que quand il y a quelque chose qui meurt, il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de moi et je peux vivre des grands moments d'émotion, de rencontre avec ce cycle-là qui pour moi, relie avec le cycle plus grand de la vie. Voilà.
Donc, deux rendez-vous hein, avec Mélusine pour les danses immortelles, en janvier à Écologie au quotidien, puis au Théâtre des Airs en avril. Qu'est-ce qu'il en est aussi de Mélusine tout au long de l'année? Est-ce que tu proposes des ateliers aussi?
Alors, j'ai un stage que je donne avec Nicolas Oteinheimer chaque année, sauf l'année dernière, parce que j'étais enceinte et maintenant j'avais un bébé nouvellement né. Et donc ça s'appelle Vers l'authenticité. Il y a un stage en avril et un stage en juin. Donc ça c'est sur mon site internet. Je n'ai pas les dates ici exactes. Donc ça c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que c'est vraiment un endroit où on va également dans cet espace cru et profond de l'expression. Et ensuite, là, j'ai un gros projet qui va commencer aussi dans 15 jours et qui va parler aussi du deuil, mais dans un niveau plus social et presque politique, dans le sens où je vais travailler à partir d'un bâtiment qui va être détruit, à rencontrer les gens qui vont devoir déménager, donc quitter ce lieu. Et ensuite, ce lieu, ça sera détruit. Et l'idée, c'est de travailler dans cet espace de transition et de créer quelque chose à l'intérieur de ça. Et à la fin, de faire un spectacle, rituel, célébration, spectacle, en tout cas quelque chose qui peut honorer ce départ, créer. Tout à l'heure, tu parlais un peu de ça, de c'est quoi nos traditions un peu autour de la mort et cet espace de recherche de rituel. Que nous apportait la religion, et si on sort de la religion, quels sont nos nouveaux modes de rituels et de rencontres? Et là, ça va questionner également cette notion-là. Donc là, pendant 6 mois, je vais m'interroger à différentes échelles avec les danses immortelles, Philomèle, et ça s'appelle En revoir, Au revoir Altaïr. Donc c'est le nom d'une étoile, donc c'est assez beau aussi. Donc voilà, ça c'est l'actualité. Après j'ai d'autres actualités, mais en tout cas là c'est les 6 prochains mois.
Au revoir Altaïr, donc c'est ce programme qui célébrera en quelque sorte la destruction d'un immeuble. C'est un immeuble qui se situe dans une
à
ville.
Valence.
À Valence, d'accord. Justement, je venais à cette idée de cette destruction, de ces démolitions hein, contrôlées d'immeubles. Est-ce que, justement, les familles, les populations qui ont vécu et qui voient en quelques secondes anéantir des décennies ou des années d'existence dans ce lieu, est-ce que cela crée aussi une certaine mort quelque part?
Eh ben, je vais pouvoir rencontrer l'expérience de chacun. Là, on va commencer à travailler sur ce thème. Qu'est-ce que c'est partir? Vers où je vais? Qu'est-ce que j'ai vécu ici? Qu'est-ce que j'ai envie de partager de ce que j'ai vécu ici? Qu'est-ce que ça me fait vivre de devoir partir? Parce que c'est pas pareil de partir par soi-même que lorsqu'on fait la demande.
Que contrainte.
La contrainte, oui. Et comment on crée quelque chose ensemble de symbolique, de... Donc je pense que ça va être une grande aventure. En tout cas, je suis dans un bateau, un grand bateau là, qui traverse Ouais, le Nil.
Mais l'usine de Maillet, Internet, on peut vous y trouver.
Oui.
Et on tape votre nom et vous avez une page vous-même.
Bah, c'est le nom de la compagnie, inoutcity.fr. Voilà. Tout ça.
In-out-city,
ce titre. Dedans, dehors du lieu.
Voilà, c'est parce que vous interprétez soit en extérieur, en intérieur ou les deux.
Principalement en extérieur. Mais je suis tout le temps sur ce travail-là, depuis quelques années maintenant, je ne sais plus combien de temps. En tout cas, où c'est vraiment mon endroit de recherche, c'est cette articulation entre le dedans et le dehors et comment dire l'indicible, créer une forme de l'informe. Enfin, vraiment, il y a cette thématique-là qui m'anime depuis plusieurs années et qui se traduit par plusieurs créations.
Mais l'usine de Maillet, je vous remercie en tout cas d'être venu sur RDWA pour nous parler donc de ces propositions des danses immortelles qui auront lieu pendant l'écologie au quotidien du 20. Ça sera le lundi 23 janvier à l'espace social et culturel du DIWA, je crois.
Oui. À 9h.
À 9h. Les inscriptions aussi se font comment ?
Je crois qu'il faut contacter
directement l'organisation. Hein. Mmh. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.